6h39.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 30 mars. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, scepticisme des Occidentaux après l'annonce de la Russie d'une réduction de son activité militaire en Ukraine. On fait le point sur les négociations en début de journal. Après Anaïs, les autres titres.
Avec le rebond du Covid, certains enseignants demandent le retour du masque à l'école, au moins partiellement. La campagne présidentielle à 11 jours du premier tour, mode d'emploi pour les procurations. Et puis un mondial de foot avec la Pologne, mais sans la Suède, avec le Sénégal, mais sans l'Algérie. On a quasiment tous les qualifiés.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50 avec vous, Léa.
Avez-vous vu, Nicolas, ces vidéos de fillettes afghanes en larmes renvoyées chez elles par les talibans qui ont estimé qu'elles n'avaient pas le droit d'aller à l'école? On reviendra ce matin sur la tragédie des femmes afghanes parce qu'on n'a pas le droit de les oublier. Avec Solène Chalvon-Fioriti, grand reporter pendant 10 ans en Afghanistan, auteur de La femme qui s'est réveillée, une histoire afghane chez Flammarion.
À tout à l'heure Léa, à 8h20 la suite de notre série des 12 grands entretiens avec les 12 candidats à l'élection présidentielle. Ce matin, le candidat de l'Union Populaire, Jean-Luc Mélenchon. Amis auditeurs, vous aurez très largement la parole dans cet entretien spécial. C'est le principe, vous le savez désormais. Alors j'attends vos questions au 01 45 24 7000.
France Inter. Les Occidentaux ont des doutes et veulent le voir pour y croire. Le président ukrainien, lui, y décèle des signes positifs. Beaucoup de prudence ce matin, mais après 5 semaines de guerre en Ukraine, la Russie s'engage à réduire les combats. Après les discussions entre négociateurs à Istanbul, on a l'impression que la tension retombe un peu. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Moscou. Les Ukrainiens ont proposé un plan en 10 points aux Russes qui s'engagent à y répondre et estiment avoir fait des concessions et un pas vers la paix.
Oui, et même deux pas vers la paix, a dit hier le négociateur en chef de la délégation russe, Vladimir Medinsky. La partie russe présente comme un gage de bonne volonté la réduction de l'intensité militaire sur les fronts de Kiev et de Tchernihiv, au nord de la capitale ukrainienne, et elle accepte le principe d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky une fois qu'un projet d'accord aura été écrit entre les deux parties. Charge au président ensuite de discuter des points qui coincent encore, essentiellement le statut de la Crimée et celui des républiques séparatistes du Donbass. Pour la Crimée, que la Russie a annexée en 2014, les Ukrainiens proposeraient d'entrer dans un cycle de négociations pouvant durer 15 ans, une façon de repousser le problème et qui aurait l'avantage pour les Russes de conserver leur mainmise sur le territoire et de dire que Kiev a renoncé à le reconquérir militairement.
Et ce matin, Sylvain, peut-on dire qu'on est en voie de résolution du conflit?
Alors non, pas encore, ne serait-ce que parce que les Russes ont tout de suite précisé hier que la désescalade militaire en direction de Kiev ne signifiait pas cesser le feu, les combats se poursuivent. Vladimir Poutine a également dit hier soir à Emmanuel Macron qu'il n'était pas possible d'envisager une opération humanitaire à Mariupol actuellement. Et puis, les propos plutôt positifs d'hier viennent des négociateurs russes présents à Istanbul, le vice-ministre de la Défense, Alexandre Fomine, et le négociateur en chef, l'ancien ministre de la Culture, Vladimir Medinsky. L'un comme l'autre ne sont pas des personnages de premier plan. Et s'il y a une chose que l'on sait du fonctionnement du pouvoir russe et que les dernières semaines ont gravé dans le marbre, c'est que tant que Vladimir Poutine n'a pas parlé, rien n'est certain à Moscou.
Et Sylvain Tronchet, effectivement, vous nous le dites, tout dépend de ce que va dire Vladimir Poutine. Peut-il accepter de mettre fin à la guerre? À quelles conditions? Attention, prudence, dit Hélène Blanc, spécialiste de la Russie et du monde slave.
Poutine ne peut pas perdre la face, ni à ses propres yeux, ni aux yeux des Russes, en tout cas des Russes informés, ni surtout aux yeux de l'Occident. Et je pense que malheureusement, si les deux belligérants arrivent enfin à se mettre d'accord, j'ai peur que ce soit au détriment de l'Ukraine. Le porte-parole du Kremlin a dit que les forces russes allaient se concentrer sur maintenant Lugansk et Donetsk. Bon, mais en fait, il n'y avait qu'un tiers de cette zone qui était plus ou moins sous contrôle des séparatistes. Mais la zone elle-même, elle est beaucoup plus vaste. C'est une grande partie de l'Ukraine. Alors, est-ce que Poutine va décider que cette partie de l'Ukraine appartient à la Russie ou toute l'Ukraine? Enfin, je veux dire, il n'y a que lui qui sait. Lui, comme vous savez, à part menacer, il ne dit rien. Ça, on lui a appris ça au KGB, dont le premier précepte qu'on vous apprend quand vous entrez, c'est: tout agent a un cerveau pour surveiller sa langue et dissimuler sa pensée. Et ça, il le fait avec beaucoup de brio.
Hélène Blanc, spécialiste de la Russie, avec Julie Pietri. À l'unisson, les Occidentaux disent juger maintenant le chef du Kremlin sur ses actes et pas ses paroles, et voient plutôt un repositionnement des troupes russes plutôt qu'un retrait. Et sur le terrain, pour l'instant, le bilan s'est encore alourdi à Mykolaïv, touché hier par une frappe sur un bâtiment administratif. Il y a 12 morts, plus d'une trentaine de blessés. La ville commande la route d'Odessa. Dans les rues de la capitale, la population, elle, doute de la bonne foi des Russes. Reportage à Kiev de nos envoyés spéciaux Arthur Gerbeau et Marie-Pierre Véraud.
Ils sont trois amis qui ont pris la route pour retrouver Kiev, leur ville, le jour où l'on annonce une percée dans les négociations. Sergueï, le chauffeur routier, Yevhen, le musicien et Alexander, l'entrepreneur, partagent un même scepticisme. Ne parlez surtout pas des Russes à Yevhen.
Je pense qu'il est impossible de se mettre d'accord avec l'ennemi, avec la Russie. Ils sont menteurs et malhonnêtes, ils trichent toujours.
Alex l'approuve. Comment dit-il se mettre d'accord avec un ennemi qui vient tuer nos enfants sur notre terre, qui détruit nos villes ? La Russie a beau annoncer qu'elle va desserrer l'étau sur Kiev et Tcherniv, au nord, Sergueï attend de voir.
Les parents de mon épouse habitent à Tcherniv et tous les jours, depuis 30 jours, ils restent terrés dans leur cave sans sortir. Ils ont chronométré toutes les 4 heures, un avion bombarde les civils. Les Russes ne se retirent pas. Ils vont peut-être reculer et se regrouper pour revenir. Il ne faut pas les croire.
Bien sûr qu'on rêve tous de paix, ajoute-t-il, mais qui va la garantir ? Après un mois de souffrance, les Ukrainiens ne s'autorisent pas encore l'espoir. Kiev, Arthur Gerbeau, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Toujours côté ukrainien, les négociateurs à Istanbul demandent de mettre leur pays sous la protection de garants, les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l'Allemagne, la Pologne et Israël, sans interdire l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Enfin ce matin, les États-Unis redisent à leurs citoyens de ne pas se rendre en Russie ou de quitter le pays immédiatement. Le département d'État craint des arrestations arbitraires d'Américains.
Il est 7h07, autre inquiétude ce matin à l'étranger, Anaïs, avec la vague de violence en Israël.
5 personnes tuées en banlieue de Tel Aviv dans une ville ultra-orthodoxe. Nouvelle attaque hier soir qui s'ajoute aux 2 autres cette semaine perpétrées par des Arabes israéliens liés à la mouvance djihadiste. Alors que le Ramadan débute en fin de semaine, les autorités israéliennes passent en mode antiterrorisme. Le chef de l'autorité palestinienne condamne ces attaques. Nous serons en Israël dans le journal de 8h. En France, hospitalisation, contamination, tous les indicateurs du Covid repartent à la hausse. 10% d'absentéisme dans les entreprises et à l'école. Difficile de faire respecter le port du masque pendant 7 jours au cas contact. C'est pourtant ce que recommande le protocole sanitaire. Une réunion avait lieu hier entre enseignants et autorités de santé, Sonia Princé.
Dans certains établissements, les classes sont de plus en plus clairsemées, de plus en plus de professeurs sont absents. L'épidémie revient en force alors qu'élèves et enseignants ne portent plus le masque depuis seulement 2 semaines. Pour le syndicat SGEN CFDT, il faut absolument le rendre de nouveau obligatoire pour les cas contacts. Laetitia Arizu, secrétaire national, a fait cette demande au ministère de l'Éducation.
C'est que les chefs d'établissement, les directeurs, directrices d'école puissent localement obliger au port du masque lorsque la situation épidémique l'exige, parce qu'il y a un certain nombre de cas contacts et qu'on voit que un cluster est en train de se former, ce qui n'est pas le cas actuellement. Dans le protocole, les chefs d'établissement ont la possibilité de recommander le port du masque. Ça n'est pas une obligation, ce qui n'est pas toujours compris. Parfois, des familles, des élèves s'opposent à cette recommandation en disant que ce n'est pas une obligation et que donc ils ne s'y conforment pas. Et ils ne sont pas dans la logique de prévention.
Pour l'instant, les autres syndicats ne sont pas sur cette ligne. Cette mesure aurait peu d'effet si le masque n'est plus obligatoire partout ailleurs, dans les lieux fermés comme les restaurants, les cinémas. Le ministère a fait savoir qu'il n'y aurait pas d'évolution du protocole dans les prochaines semaines. Le gouvernement ne veut pas instaurer de mesures spécifiques à l'école par rapport à ce qui est en vigueur dans la population générale. Et en pleine campagne présidentielle, il veut absolument éviter le retour du masque obligatoire.
La campagne qui passe aujourd'hui par Besançon, grand oral pour 6 candidats au congrès de la FNSEA. Les chasseurs, eux, n'en trouvent qu'un seul à leur goût, ni Marine Le Pen, qualifiée dans le Parisien aujourd'hui en France d'animaliste primaire, ni Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon ou Anne Hidalgo, trop dogmatique. Interview au vitriol du porte-parole des chasseurs qui votera pour Emmanuel Macron, qui ne l'a pas déçu. Quant à Valérie Pécresse, il lui reproche d'avoir signé la charte sur les animaux avec L214. Valérie Pécresse et sa nouvelle épine dans le pied, Nicolas Sarkozy, dont elle a été ministre, ne sera pas à son meeting dimanche. On en parle tout à l'heure à 7h30. De l'autre côté de l'échiquier politique, Anne Hidalgo Hidalgo, en visite hier à Nancy au marché de la ville, a une nouvelle fois taclé Jean-Luc Mélenchon, qui dit vouloir rassembler la gauche. Mais selon la candidate socialiste, il y a quelques temps, il avait même théorisé qu'il n'était plus de gauche, mais du peuple. Cette gauche-là ne se confond pas avec celle que je porte, dit Anne Hidalgo. Quoi qu'il en soit, à 11 jours du premier tour, 40% des Français qui auront voté n'ont toujours pas fait leur choix. Autre grande inconnue, l'abstention. Et si vous êtes pris les 10 et 24 avril, vous pouvez voter quand même. Simon Le Baron, c'est le vote par procuration.
D'abord, la nouveauté, c'est qu'un autre électeur peut voter pour vous sans forcément être inscrit dans la même commune. Mais il ou elle devra tout de même se rendre le jour J dans votre bureau de vote. Pour donner procuration, donc, deux solutions. Soit vous allez directement au commissariat, à la gendarmerie ou au consulat si vous êtes à l'étranger, soit vous remplissez le formulaire en ligne maprocuration.gouv.fr, ce qui ne vous évitera pas de vous rendre physiquement sur place pour faire valider la procuration. Si vous ne pouvez pas vous déplacer à cause d'une maladie, d'un handicap, un policier ou un gendarme peut venir chez vous. Il faut pour cela en faire la demande par courrier, par téléphone ou par mail. Sachez en revanche qu'un mandataire ne pourra voter que pour une personne, pas de double procuration, contrairement aux régionales et aux départementales. 20 000 électeurs seulement en avaient bénéficié, selon le gouvernement, qui a jugé que le dispositif n'avait donc qu'un faible impact sur l'abstention. Dernière chose, vous pouvez en théorie établir une procuration jusqu'à la veille du scrutin, mais prenez quelques jours d'avance pour être sûr qu'elle arrive à temps en mairie.
Explication signée Simon Le Baron.
Il est 7h11, Salah Abdeslam interrogé aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre.
Journée cruciale et attendue depuis près de 7 mois par les parties civiles. A-t-il pris la place de Mohamed Abrini, comme ce dernier l'a affirmé hier? L'audience débute cet après-midi. L'ex-secrétaire d'État Jean-Vincent Placé, mis en examen à Paris hier pour agression sexuelle sur une collaboratrice. Des perturbations à venir ce matin en région parisienne. Manifestation à 10h des taxis au départ de l'aéroport de Roissy jusqu'à Bercy. Ils demandent une baisse des taxes face au prix du carburant. L'Algérie crucifiée par le Cameroun à la dernière seconde des prolongations. Dernier match de qualification hier soir pour le mondial de football au Qatar. Et on connaît les billets gagnants et les grands absents, Winnie Claré.
Et parmi les absents, le géant Zlatan Ibrahimovic, 40 ans, a dit au revoir à sa dernière chance de Coupe du Monde avec la Suède qui s'est inclinée 2-0 en Pologne hier soir. Mohamed Salah et l'Égypte vaincus au tir au but par le Sénégal ne seront pas non plus de la partie. On ne verra pas l'Algérie de Riyad Mahrez éliminée par le Cameroun au bout des prolongations. Pas non plus les champions d'Europe, les Italiens, Jorginho, Gianluigi Donnarumma et consorts, sortis à la surprise générale par la Macédoine du Nord. Mais en face, la liste des superstars attendus à Doha est longue. À commencer par la légende argentine Lionel Messi, septuple ballon d'or. Il y aura aussi le Portugal et son capitaine Cristiano Ronaldo, les Polonais et le meneur du Bayern Munich Robert Lewandowski, et puis le Brésil de Neymar, la Belgique de Kevin De Bruyne ou l'Allemagne de Thomas Müller. Ça promet. Certains se dresseront face aux Bleus, champions du monde en titre mené par un brillant Kylian Mbappé, 23 ans et déjà 26 buts marqués en équipe de France.
Et le tirage au sort de la phase de poule, ce sera vendredi.
Merci Anaïs Feugat. Le zoom dans 3 minutes. Des réfugiés à la maison. Comment gérer la cohabitation ?